Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
Qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types. Qu'ils ont cassé leur pipe. On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des braves types.
Et oui, c'est Clotilde Seil et c'est l'émission À Livre Découvert qui se prolonge. Vous ne rêvez pas, vous n'avez pas la berlue. C'est la première émission À Livre Découvert de la saison 2014-2015 qui se prolonge parce qu'elle dure une heure à partir de maintenant. On prend beaucoup plus de temps avec nos invités. Et puis, bien sûr, avec ce temps gagné, on va être en mesure de vous donner beaucoup plus de titres aussi. Alors, l'émission se poursuit. Maintenant, on change de chapitre.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Et oui, ça va faire partie de nos nouvelles rubriques. On va aller revisiter un classique, peut-être qu'on a oublié. Peut-être, vous savez, il y a ces livres qu'on aime à un moment donné réouvrir. On aime replonger dedans. On les a comme oubliés. Et là, moi, je me suis amusée, en tant que Française, je me suis amusée à aller sur un site internet et à taper simplement le classique des classiques québécois. Et je suis convaincue que ce que ça a donné, ça va vous surprendre beaucoup parce que moi, personnellement, je ne m'attendais tellement pas à ça. Si je vous dis Volkswagen Blues de Jacques Poulain, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il paraît que dans les écoles, c'est un des livres qui est les plus étudiés au Québec. J'ai Jacques Tremblay à côté de moi. Jacques, vous pouvez vous avancer.
Bonjour,
qui est bénévole à l'émission et qui va participer un petit peu plus tard. Est-ce que vous avez lu ce Volkswagen Blues?
Non, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai vu parce qu'il est dans la bibliothèque de la maison. Et ça fait partie des titres que je me dis, il faudrait bien que je lise Poulain, ça.
C'est pour ça que j'ai voulu instaurer cette nouvelle rubrique du classique de la semaine. Alors, Volkswagen Blues, un roman de Jacques Poulain, c'est paru en 1984. L'histoire, brièvement, c'est un écrivain, Jack Waterman, qui part en voyage à bord de son minibus, un Volkswagen, pour retrouver son frère, qu'il n'a pas vu depuis environ 20 ans. Et sur son trajet de la Gaspésie à la Californie, il prend en autostop une jeune métisse, surnommée la Grande Sauterelle, et son chat, et tous deux vont vivre une sorte de road movie, tout en traversant l'Amérique du Nord, qui va leur faire suivre le Saint-Laurent et franchir les Rocheuses jusqu'à la baie de San Francisco, tout en se rapprochant au gré de leur sentiment, bien évidemment. Alors, j'ai ici quelques critiques, parce que moi, je ne peux pas vous dire que je l'ai lu, je ne l'ai pas lu aussi. Je ne l'ai pas lu non plus, devrais-je dire. Donc, je suis allée voir ce qu'on en disait. « Long, mais agréable voyage », dit un lecteur. Et puis, il dit « J'ai aimé les rencontres avec Brassens et ses chansons, parce que Brassens a une large place, du moins une place dans ce livre-là. » C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous en faire entendre un petit bout d'une chanson de Brassens, « Le temps passé ». Et puis la route, les paysages, l'histoire, tout cela fait de Volkswagen Blues un véritable road movie, un film plutôt qu'un livre, mais un film où l'on croise aussi les ombres bienveillantes de Jack Kerouac, Ernest Hemingway, et puis les yeux verts brillants comme des lumières de Gabriel Roy. Un film avec en fond sonore une petite musique qui chante les pouvoirs de la poésie et de l'imaginaire. Tout cela, dit ce lecteur, fait qu'il émane de ce livre un charme inexplicable, un pur bonheur de lecture à savourer comme une assiette de fraises à la crème et ses parfums d'été et d'enfance. Mais, vous savez, j'aime bien parfois aller chercher des critiques un peu plus mitigées. Et j'en ai une ici, par exemple, il y en a un qui dit « Ben moi, je vais un petit peu noircir le tableau parce que personnellement, je me suis un peu ennuyé en lisant ce livre. » Lui, il a trouvé cette personne-là qui avait un petit peu de longueur, une certaine poésie qu'il a trouvée plus désuète que touchante, voire une certaine naïveté qui va, selon ce lecteur critique, avec l'inconsistance des personnages dont le côté fantasque m'a plutôt énervé qu'amusé, dit-il. Et il y en a un autre qui dit « C'est le moins bon des romans de Poulain et c'est malheureusement le plus lu et le plus enseigné dans les écoles québécoises. » Et ce monsieur-là nous dit « Lisez plutôt Les Grandes Marées, mais Les Grandes Marées, je vous dis tout de suite, on ne l'a pas au SQLA, mais je vais vous citer d'autres titres que nous avons de Jacques Poulain au SQLA. » Alors, un tout petit extrait de ce livre, de ce classique de la semaine, Volkswagen Blues. La grande sauterelle avait un rapport étrange avec les livres. Un soir, elle lui dit « Il ne faut pas juger les livres un par un. Je veux dire, il ne faut pas les voir comme des choses indépendantes. Un livre n'est jamais complet en lui-même. Si on veut le comprendre, il faut le mettre en rapport avec d'autres livres, non seulement avec des livres du même auteur, mais aussi avec des livres écrits par d'autres personnes. » Dixit, la grande sauterelle. Dans ce livre de Jacques Poulain, Volkswagen Blues, si vous en voulez d'autres de lui, vous pouvez lire ici aussi, au SQLA, c'est disponible. « L'anglais n'est pas une langue magique. »« Chat sauvage. »« Le cœur de la baleine. » Fête de beaux rêves, L'homme de la Saskatchewan, ça c'est assez récent, on a enregistré ça fin 2012 pour le SQLA et on retrouve dans ce livre-là des personnages d'ailleurs qui étaient dans Volkswagen Blues, dont La Grande Sauterelle. Il y a aussi La Traduction est une histoire d'amour, toujours signé Jacques Poulain, et enfin Le Vieux Chagrin. Voilà, pour découvrir si ce n'est ce Volkswagen Blues, et bien peut-être même plus encore l'œuvre de Monsieur Jacques Poulain.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et là, il vient de faire « Oh, le bénévole du jour, mais c'est moi !» Jacques Tremblay, bonjour.
Bonjour Clotilde.
C'est pas d'hier, vous, hein, que vous êtes bénévole.
Ça fait à peine 3 ans.
Ça fait à peine 3 ans.
Oui, quand on regarde le tableau à l'entrée de nos locaux ici... Il y en a qui sont à 32, 33, oui. 35 ans.
Autrement dit, nous sommes arrivés à peu près ensemble parce que ça fait 3 ans aussi, moi, que je lis bénévolement ici. Alors, donc, voilà. On doit être de la même charrette, comme on dit.
Je ne suis pas certain qu'on fera nos 35 ans, là.
Ça me surprendrait beaucoup. Ou alors, avec une voix un petit peu chevrotante, ce que je ne souhaite absolument pas à nos lecteurs. Vous venez nous parler, Jacques, d'un livre que vous avez lu.
Absolument.
Dans le cadre de vos activités bénévoles, quel est-il?
Ça s'appelle « Le lecteur » de Jules Verne. Alors, on s'attendrait à un livre d'aventure. Son auteur, Almudena, et non pas Almuneda, Almudena.
Ah, c'est Almudena, pardon.
Almudena Grandes.
Que je vais épeler, hein, Almudena, c'est bien ça?
Exact.
Et donc, Grandes, c'est le nom de famille. Ah, et puis moi, j'avais tout faux, alors j'avais mis ça à l'envers.
Grandes,
comme des grandes filles.
Comme des grandes filles.
Voilà.
Et on réalise qu'en fait, c'est comme l'auteur officiel de la guerre d'Espagne, ou si vous voulez, de la guerre civile en Espagne. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui a été son titre le plus reconnu, qui s'appelle « Le cœur glacé ». Mais après avoir lu Le Lecteur de Jules Verne, dont je vous ai parlé, j'ai également lu Le Cœur glacé, qui lui, effectivement, est une grande saga sur une famille espagnole, sur un espace, si vous voulez, de 75 ans à peu près, et qui raconte un peu l'impact terrible que peut avoir eu la guerre civile en Espagne, qui est au cœur de ce livre-ci, Le Lecteur de Jules Verne, qui raconte, en fait, 3 années de la vie d'un petit garçon, entre 9 et 9 ans, en plein cœur de la période, on pourrait dire, franquiste, 1947, 1948, 1949, qui ont été considérées comme les 3 pires années de terreur, de répression, d'intimidation du régime franquiste, qui en fait était le régime des phalangistes, si vous voulez, qui s'élevait contre les Rouges. Alors, c'est donc un livre qui m'a appris énormément de choses sur la nature de la guerre d'Espagne et sa portée, mais qui m'a appris également beaucoup d'autres choses, notamment sur la lecture. Tout à l'heure, Michel...
Oui, Michel Corbeil.
Michel Corbeil nous parlait de ce que ça lui apportait, la lecture, en termes d'ouverture, de découverte. On a ça dans ce livre-là, je vous en parlerai un petit peu plus tard.
Okay.
On a également la rencontre avec des personnages nuancés, compliqués, complexes, parce que quand on vit en Espagne à l'époque de ces années-là... On est tiraillé, on est bousculé et on ne peut pas se reconnaître trop ouvertement parce que le moindre mot qui vient remettre en question l'État franquiste peut être considéré comme de la rébellion et objet d'une répression terrible. Ce livre-là, dans le fond, nous apprend différentes choses sur ce garçon-là et d'abord sur la période. Si vous voulez, je voulais un extrait.
Si vous voulez, dès maintenant,
nous situer. Un tout petit peu.
Bien sûr.
À propos de cette guerre qui est le contexte général du livre. Une guerre avait divisé l'Espagne en 2 et mes parents s'étaient trouvés dans un des camps, tandis que leurs familles respectives étaient dans l'autre. Juste avant le soulèvement, mon père s'était engagé comme volontaire pour que sa femme et sa petite-fille soient à l'abri du besoin. Naturel. On l'avait enrôlé dans une compagnie de la garde civile. Et par la suite, il n'avait pas cherché plus loin. Il était resté là. En ce qui me concerne, enfant fortuit et non désiré, j'étais né en pleine guerre, à l'occasion d'une permission de mon père dans cette maison de Grenade dont je n'avais pas le moindre souvenir. Et mon père, qui avait fait ma connaissance alors que j'avais déjà plus d'un an, aurait donné n'importe quoi pour être muté le plus loin possible de son village. Mais quand son supérieur avait su qu'il connaissait la Sierra Sud comme sa poche, on l'avait envoyé dardard à Fuensanta de Martos, qui sera le lieu principal du déroulement de ce roman, à 2 pas de Valdepeñas de Jaén, où la guerre perdurait malgré ce que Don Eusebio s'obstinait à prétendre. Don Eusebio, c'était le professeur du village. Mon père était devenu garde civil par hasard, et pas du tout parce que mon grand-père l'était avant lui. Parce que ce qu'on nous explique, c'est qu'on était garde civil, donc le porte-étendard du franquisme pendant la période dont on parle, mais son père l'était devenu, traditionnellement, l'était de père en fils. Mais lui, il était devenu par besoin de sécuriser sa famille.
Okay.
On apprendra plus tard dans le roman qu'en fait, le grand-père du garçon, ou le père de ce garde civil, avait été lui-même dans la rébellion et avait fait l'objet d'une exécution sommaire, comme ça se produisait régulièrement.
Régulièrement, oui.
Alors, à travers le témoignage de Nino, parce que c'est ce petit garçon-là, on se familiarise avec 3 mondes, si vous voulez. Le monde de la garde civile, qui est une horreur, parce que les familles des gardes civils vivaient à l'intérieur des casernes, et donc les chambres des enfants, très souvent, le concomitant était avec souvent une salle de torture, avec ce que vous pouvez imaginer comme bruit. Et pour calmer les enfants, les plus grands frères ou les plus grandes sœurs pouvaient leur expliquer que « Non, c'est parce qu'on joue un film à côté, alors faut pas vous en faire.
Oh. »
Alors,
oh là là.
C'est le monde des casernes, si vous voulez. Le deuxième monde que l'on découvre, c'est celui de la liberté et de l'indépendance d'esprit. Parce que ce garçon-là aura la chance de rencontrer des personnages fabuleux. Le principal s'appelle Pepe el Portuguese. Alors ça, c'est un homme d'une trentaine, d'une 35 ans, qui vient s'installer, qui vient d'on ne sait où, qui aurait vécu une peine d'amour et qui s'est installé à l'écart du village dans un vieux moulin. Et quand le jeune fait sa connaissance, il fait la connaissance d'un homme non seulement qu'il admirera, mais dont il se fera une idole, qu'il ne rêvera pas d'imiter, mais qu'il rêvera d'être, parce qu'il signifiera, si vous voulez, la liberté et l'ouverture. Et le troisième monde sur lequel la vie de cet enfant-là nous fait déboucher, c'est le monde de la lecture. J'arrive enfin à la lecture de Jules Verne, parce qu'à la périphérie de ce village-là vivent des femmes, cinq femmes et trois enfants. Mais les femmes sont seules parce que soit leur mari a été exécuté, ou soit leur mari a pris le maquis et s'est enfui et sont devenus comme des révolutionnaires qui vivent dans la montagne. Et ils sont donc tenus à l'écart du village. Et l'une de ces femmes-là, Doña Elena, est une pédagogue née, et elle apprendra à Nino des choses aussi élémentaires que la dactylo et la sténo, ce qui lui permettra de devenir autre chose qu'un garde civil. Okay. Mais elle lui apprendra surtout à lire en lui faisant découvrir les romans de Jules Verne. Et s'il me reste une minute,
oui,
je lirai l'extrait,
j'aimerais ça.
L'extrait de Jules Verne à la page 196. Ainsi, écrit donc Nino, « tandis que je conquérais l'espace en traversant les étoiles, où je sondais le magma incandescent des profondeurs de la Terre, les romans de Jules Verne prêtés par Doña Elena étaient pour moi bien plus que des livres. Ils assuraient une existence privilégiée à un petit gamin qui n'avait jusque-là jamais eu de raison de se sentir chanceux. Ils étaient le lien entre mes deux vies, le tunnel secret reliant les murs nus de ma chambre, de la maison-caserne, aux cagettes de fruits qui abritaient une bibliothèque vivante. » Chez Doña Elena.
Oui, oui, oui.
En outre, les romans de Jules Verne me donnaient souvent le prétexte de poser des questions sur tout ce que j'ignorais en histoire, en géographie, en physique, à propos des sextants, des ballons aérostatiques, des sous-marins, des routes maritimes, des exploits, des découvreurs, des expériences dans les laboratoires de tous ces savants fous et sages à la fois, qui, après beaucoup d'erreurs, parvenaient aux plus grandes découvertes de leur vie. Ainsi, ces livres allaient me conduire vers d'autres livres, d'autres auteurs, que j'allais découvrir avec la même avidité, car ils me révélaient des mondes différents, mais tout aussi fascinants, que je finissais par explorer avec les questions que je posais à une femme qui savait toujours me répondre. « Je suis ennuyé, Nino », me disait-elle de temps en temps. « Si on parle tout le temps, on n'avancera jamais. » Et la conclusion, en réalité, je ne voulais pas avancer, car je ne voulais pas que cela finisse.
Moi non plus, je ne voulais pas que ça finisse. Jacques Tremblay, c'est tellement bonheur de vous entendre. Hein? Jean-Sébastien qui est à la technique, on écouterait cet homme-là lire pendant des heures. Et c'est ce que vous pouvez faire.
Si ça n'avait pas été fait, on avait enregistré ensemble les dialogues de Godin.
Ah oui, ça j'aurais aimé ça.
Ça aurait
oui,
été rigolo.
Absolument. Le lecteur de Jules Verne, et c'était admirablement amené ici par Jacques Tremblay. Jacques Tremblay, bénévole ici chez Vues et Voix, qui a lu ce livre de Almudena, est-ce que je l'ai bien eu cette fois-ci, Almudena Grandes. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres de Almudena Grandes aussi disponibles au SQLA. Il y a Ignace et la Joie, oui, et puis également Le Cœur Glacé.
Ah ouais.
Donc, découvrez tous ces livres-là. Et enfin, celui que vous venez d'enregistrer pour nous, Jacques Tremblay. Je vous rappelle le titre, Le Lecteur de Jules Verne. Merci beaucoup. On se revoit bientôt.
À bientôt. Au plaisir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Et oui, ça c'est une nouvelle rubrique qui m'a été, je dois être honnête, c'est Luc Fortin qui m'a demandé, Luc Fortin que vous connaissez bien, animateur ici chez Vues et Voix, et à un moment donné il m'a dit, tu sais, j'adore ça quand vous parlez de livres disponibles au SQLA, mais il y a des fois où on aimerait entendre ce que ça donne. On aimerait entendre un extrait du livre tel qu'il est lu par un ou une bénévole. Alors, ce sera cette rubrique qui pourra s'appeler « De bouche à oreille » pour des raisons bien évidentes. Et là, pour cette première rubrique, je vous propose un extrait de « La saison de l'ombre » de Leonora Miano. C'est vraiment une nouveauté. Ça vient de sortir en mai ou en juin. C'est disponible depuis vraiment le début de l'été. Et c'est un livre qui était finaliste des prix des libraires catégorie roman hors Québec. Un petit résumé. D'abord, tenez, commençons ça par un petit extrait que je vous lis. Si leurs fils ne se sont jamais retrouvés, si les Ngambi ne révèlent pas ce qui leur est arrivé, on ne racontera pas le chagrin de ces mères. La communauté oubliera les 10 jeunes initiés, les 2 hommes d'âge mûr évaporés dans l'air au cours du grand incendie. Du feu lui-même, on ne dira plus rien. Qui goûte le souvenir des défaites ? Alors, nous sommes en Afrique subsaharienne, quelque part à l'intérieur des terres, dans le clan Mulungo. Les fils aînés ont disparu, leurs mères sont regroupées à l'écart. Quel malheur vient de s'abattre sur le village? Où sont les garçons? Alors, au cours d'une quête initiatique et périlleuse, les émissaires du clan, le chef Mukano et trois mères courageuses vont comprendre que leurs voisins, les Bouélés, les ont capturés et vendus aux étrangers venus du nord par les eaux. Dans ce roman que l'on dit très puissant, Leonora Miano, elle revient sur la traite négrière, en fait, pour faire entendre la voix de celles et de ceux à qui elle a volé un être cher. L'histoire de l'Afrique subsaharienne s'y drape dans une prose magnifique et mystérieuse, imprégnée de mysticisme, de croyance et de l'obligation d'inventer pour survivre. Au sujet de son livre, Leonora Miano, à un moment donné, a déclaré dans une entrevue « Simulation et dissimulation n'ont pas leur place en littérature. Quand vous créez des personnages, ce qui importe le plus est ce qui va faire écho chez vos lecteurs, quelle que soit leur origine. C'est la manière dont vous êtes capable de travailler sur la subjectivité de vos personnages, de leur donner une intériorité dense et intense, puisque c'est cet aspect-là des choses qui transcende les territoires et les couleurs. » C'est très important d'y arriver, même si on travaille sur des expériences historiques et sociales particulières. Alors, je vous propose d'entendre le tout début de ce livre, tel qu'il est lu ici par une bénévole dont on ne cite pas le nom, parce que vous savez que quand vous prenez un livre, le nom du bénévole n'est jamais cité. C'est comme ça. Moi, par contre, j'ai décidé, quand je reçois des Jacques Tremblay, d'incarner les gens qui vous lisent ce livre. Mais voici donc le tout début de la saison de l'ombre, disponible depuis très peu de temps au SQLA.
Elle l'ignore, mais cela leur arrive au même moment. Celles dont les fils n'ont pas été retrouvés ont fermé les yeux au bout de plusieurs nuits sans sommeil. Les cases n'ont pas toutes été rebâties après le grand incendie. Regroupées dans une habitation distante des autres, elles combattent de leur mieux le chagrin. Le jour durant, elles ne disent rien de l'inquiétude, ne prononcent pas le mot de perte, ni les noms de ces fils que l'on n'a pas revus. En l'absence du guide spirituel, lui aussi perdu on ne sait où, le conseil a pris les décisions qui semblaient s'imposer. Des femmes ont été consultées, les plus âgées. Celles qui ne voient plus leur sang depuis de longues lunes. Celles que le clan considère désormais comme les égales des hommes. Parmi les deux qui eurent le privilège d'être entendues après la tragédie, Ebézé, la première épouse du guide spirituel, a été particulièrement prise en compte. En tant que matrone, elle a assisté bien des parturientes. Elle a vu trembler certains des notables siégeant au conseil alors qu'ils attendaient à l'extérieur de la case où une vie allait éclore, se mordant les lèvres, mâchouillant des herbes médicinales dans l'espoir de se calmer, murmurant des suppliques au Maloba. Note 1. Pour être délivrés de l'existence parmi les vivants, tant l'épreuve leur était insupportable.
Alors, je vous rappelle que vous venez d'entendre le tout début du livre de Leonora Miano qui s'intitule « La saison de l'ombre ».
Des nouvelles et des livres.
Oui, il y aura aussi des nouvelles et des livres. Il y a deux, trois semaines, on remettait le prix Robert Clich du premier roman à Martin Clavet pour son livre « Ma première blessure ». Donc le prix Robert Clich 2014, bien évidemment, qui n'a pas encore été enregistré. Eh bien là, je me suis dit, pourquoi ne pas parler du prix Robert Clich 2013, qui s'intitule « Zora, un conte cruel » de Philippe Arsenault, qui lui a été enregistré au SQLA. Un livre dont on nous a dit dans voir.ca, en avez-vous assez des contes sirupeux et de la déferlante de mièvrerie qui accompagne les fêtes? Nous avons ce qu'il vous faut. Ce roman gagnant du dernier prix Robert Clich, qui récompense des premières œuvres de fiction québécoise, est en effet l'antidote parfait au caractère gentillet du conte traditionnel que l'on nous sert en ce moment. Alors là, si vous voulez un livre avec du sang, avec des crachats, avec vraiment là, on y va, on n'est pas du tout dans le romantisme, eh bien allez courez vous chercher le prix Robert Cliche 2013 qui s'intitule, je vous le rappelle, Zora, un conte cruel, et c'est signé Philippe Arsenault.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, quelques titres en rafale, donc vraiment des nouveautés. Ça vient de sortir au SQLA. Angela Merkel, une Allemande, presque pas comme les autres. On nous dit ici, s'il y a un livre que François Hollande devrait lire, c'est bien cette biographie d'Angela Merkel, bien écrite, très documentée, sans être fastidieuse pour un lecteur français. Elle est très, très intéressante. Celle qui a écrit ce bouquin s'appelle Florence Autret, A-U-T-R-E-T, Florence Autret. On nous dit que la personnalité d'Angela Merkel s'est façonnée autour de trois composantes déterminantes. D'abord, elle est la fille de Pasteur, physicienne, et elle a grandi en Allemagne de l'Est. Et rien ne disposait cette jeune femme, ni belle ni coquette, à devenir chancelière. On se demande même pourquoi elle est entrée en politique. Alors, si vous voulez tout savoir sur Angela Merkel, courez vous procurer Angela Merkel, une Allemande presque pas comme les autres, de Florence Autret. Les anges meurent de nos blessures, de Yasmina Kadra. Je ne vous en parlerai pas énormément, tout simplement pour une bonne raison, c'est que la semaine prochaine, je vais m'entretenir avec Gérald Cousineau, abonné du SQLA, qui a lu pour nous ce livre et qui nous dira ce qu'il en a pensé. « Les anges meurent de nos blessures » de Yasmina Kadra. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici, de l'autre côté de la matraque ? De l'autre côté de la matraque, c'est un essai de 140 pages qui raconte combien d'événements peuvent laisser des traces et des cicatrices profondes. Chez qui ? Chez les policiers. Un policier, dit Martin Prémont de Scott, qui est enquêteur au crime majeur à Québec et qui a écrit ce livre, un policier, ça ne pleure pas. C'est quelqu'un qui se forme une carapace parce qu'il se retrouve devant des choses que les autres ne voient pas. Si on veut voir la police dont on parle tant en ce moment, peut-être sous un autre jour, eh bien, on peut lire ce livre de l'autre côté de la matraque de Martin Prémont. Et puis, peut-être aussi un petit dernier, ces savants qui ont eu raison trop tôt, de Laurent Lemire. De tout temps, dans le domaine des découvertes, avoir raison trop tôt ou mettre à bas les théories établies de son époque, n'a suscité que raillerie, condamnation, complot et ironie. De la Renaissance à nos jours, voici un catalogue de ceux qui eurent tort d'avoir raison trop tôt. Si vous aimez les sciences, si vous aimez tous ces gens qui ont fait des recherches incroyables, à commencer par Léonard de Vinci et tant d'autres, procurez-vous ce livre, « Ces savants qui ont eu raison trop tôt » de Laurent Lemire. Voilà, alors c'est tout le temps qu'il me reste pour la fin de cette émission. Comme toujours, on finit sur les chapeaux de roue. Merci à mes invités, André Vincent, chef des services adaptés de BANQ, Michèle Corbeil, directrice du FIL, Jacques Tremblay, bénévole. Merci Jean-Sébastien Laliberté à la technique. C'était Clotilde Seille à la réalisation et à l'animation de À livre découvert.